J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran. Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran.
Épisode 5. Prendre soin de la joie.
Sortir enfin. Sortir vivant de Buchenwald. Le 9 avril 1945, au piquet des avions sur Weimar, vous comprenez que les Alliés sont là. Alors, ultime folie, les SS vous donnent le choix. Soit vous restez au camp, soit vous partez sur les routes, escortés de vos bourreaux.
Ce coup-là était plus dur que tous les autres. Comment choisir? Aucun raisonnement, aucun calcul humain ne donnait la réponse. Où était le salut? Où était la vie?
Jacques Lucéran décide de rester. À Buchenwald, il ne reste plus que 21 000 hommes. Des 80 000 autres, partis avec les Allemands, 10 seulement survivront. Le jour suivant, le 11 avril 1945, les Américains viennent enfin libérer le camp.
Comment retrouver une vie ordinaire avec l'âme ainsi marquée au fer rouge, le corps détraqué,
avec surtout cette expérience incommensurable qu'on ne peut partager avec personne et qui vous suit partout. Et puis, ce n'est pas seulement de revenir, de tenter de guérir, c'est de découvrir comme le monde a continué de tourner sans vous. La France libérée n'a pas envie de regarder les suppliciés des camps. Ce qu'ils ont vécu lève trop de questions gênantes. Tandis que toi, Jacques, quelqu'un t'attend. Comme tes parents, elle fait partie des discrets, de ceux qui t'accompagnent chaque jour avec des réserves infinies d'attention et de gestes. Elle s'appelle Jacqueline Pardon.
J'avais intégré en février 1942 un groupe de travail de philosophie, dirigé par Philippe Vianney et Robert Salmon. Je me propose pour faire un exposé sur le goût du risque. À la fin de celui-ci, Philippe Vianney me prend à part et tout à trac me dit qu'il vient de fonder un groupe de résistance et me demande si je veux y participer. Le ciel me tombe sur la tête. C'est ce que je désirais depuis toujours. Cette aventure, au nom d'un idéal, la patrie. J'accepte d'enthousiasme.
C'est ainsi qu'elle te rencontre, à Défense de la France. Elle te décrit comme une personnalité charismatique. De ton côté, tu perçois aussitôt chez la jeune fille cette même incandescence, cet engagement entier. Arrêté le même jour, le 20 juillet 1943, vous vous retrouvez par hasard dans un couloir de la rue des Saussets. On vous place dans la même cellule, ce qui vous permettra de mettre au point votre récit. Tu as 19 ans, Jacqueline en a 22. J'imagine l'intensité des discussions que vous avez alors, plongée que vous êtes dans ce présent absolu, redoutant à tout instant d'être fusillée. 5 mois plus tard, tu es envoyée à Buchenwald, tandis que Jacqueline est libérée de la prison de Fresnes. Se sachant repérée sur Paris, elle part en province pour s'engager dans les maquis de l'Est.
Si je voulais faire de la résistance, ce n'était pas seulement pour des raisons patriotiques ou humanitaires, mais parce que c'était pour moi l'occasion de m'accomplir.
S'accomplir, pour Jacqueline Pardon, c'est entrer comme toi dans cette grande aventure de l'âme. Enracinée à une telle profondeur, l'héroïsme de Jacqueline Pardon est discret.
Je sais être non pas une héroïne, mais quelqu'un qui n'a rien à apprendre de ceux qui n'ont pas eu notre courage.
En 1945, sous prétexte que la guerre continue en Allemagne, les Alliés maintiennent les prisonniers dans les camps. Jacqueline pense à toi aussitôt et s'engage dans une mission pour le rapatriement des déportés. Partie avec 5 hommes dans une jeep, elle traverse une Allemagne anéantie par la guerre, où l'odeur des cadavres flotte encore dans les ruines. elle sera l'une des premières à passer les portes des camps de Bergen-Belsen et de Neuengamme.
La découverte macabre la plus importante pour moi, c'est celle du charnier. Des cadavres jetés les uns sur les autres, tous nus, hommes en état d'érection et femmes squelettiques, recouvertes de mouches.
Philippe Vianney, le principal dirigeant du mouvement Défense de la France, vient te chercher à Buchenwald, tandis qu'elle est encore en Allemagne. C'est toi qui l'appelleras à son retour pour lui demander de te rejoindre.
J'admire Jacques, et je décide de faire ma vie avec lui. Je voudrais lui permettre d'être reconnu pour ce qu'il est, un être d'exception.
Comme beaucoup d'intellectuels, de déportés, à peine la guerre finie, votre priorité est de mettre en place une société fraternelle et pacifique, où la haine et le fascisme ne pourront plus s'implanter. C'est ainsi que, tout juste marié, vous entrez aux citoyens du monde. Le mouvement a été lancé par Gary Davis, un ancien pilote de l'armée de l'air américaine que le bombardement des villes allemandes avait traumatisé. Déchirant son passeport, il renonce à sa nationalité et se déclare premier citoyen du monde.
Nous n'avons pas d'illusions sur les difficultés que nous attendons.
Très vite, le mouvement prend de l'ampleur. Teilhard de Chardin, Vercors, Albert Camus, André Breton se rapprocheront de cette aspiration à une mondialisation, le mot est de l'époque, qui s'incarnerait dans l'abolition des frontières. Le 9 décembre 1948, ceux qu'on appelle maintenant les mondialistes se réunissent à plus de 17 000 au Vélodrome d'hiver pour demander à l'ONU l'accélération des mesures pour la paix dans le monde.
Et voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme.
Je suis dans le cortège de la Marche pour le futur, place de la Concorde, ce 9 avril 2022. Beaucoup d'enfants. Des dessins collés sur des cartons. Il faut sauver la planète. Soyons la Terre. On parle de justice climatique, de mondialisation. Mais aujourd'hui, la mondialisation n'a plus le même sens qu'en 1948. Elle est devenue ce rouleau compresseur qui écrase les rêves d'une société fraternelle et détruit la terre où nous vivons. Entourée de ces jeunes magnifiques, je pense à Jacqueline Pardon et à Jacques Lucéran qui défilaient, comme eux, à l'âge de 20 ans. Tandis que le journal de résistants qu'ils avaient créé les évinçait pour prendre le nom de France Soir avec d'autres valeurs et d'autres dirigeants. Tandis qu'ils découvraient que beaucoup de fonctionnaires nommés sous Pétain continuaient à occuper les bureaux des administrations et des ministères. Alors, pour oublier ces désillusions, ils se retrouvent parfois entre anciens déportés.
Nous nous aimons bien, nous soutenons contre tous les complots et les rivalités qui nous entouraient à l'époque.
Tandis que je remonte le cortège, je mesure le décalage vertigineux entre les valeurs et l'engagement de ce couple de résistants et la société insouciante qui entrait de plein pied dans la consommation.
J'écoute les nouvelles d'une autre guerre. Les nouvelles de la pollution. Cette fois, l'ennemi n'est pas à l'autre bout du monde, il n'est pas un étranger. Il n'a pas une autre histoire que la mienne et d'autres croyances. L'ennemi, c'est moi. C'est nous.
Tu parles d'écologie juste avant de disparaître. Ce texte que tu t'apprêtais à dire lors d'une conférence était sur toi, quand tu mourus le 27 juillet 1971, à 46 ans. Avec ta troisième épouse dans un accident de voiture.
La pollution est une guerre civile. L'ennemi, cette fois, ce sont les découvertes sans fin de notre intelligence pratique. Ce sont les rêves. Ce sont les combinaisons de nos techniques dont les retombées font des brèches jusque dans notre vie de tous les jours, jusque dans notre vie la plus intime. J'écoute les communiqués quotidiens de nos défaites.
Après t'être engagé pour lutter contre le nazisme, tu mets la même fougue à décrire un ennemi beaucoup plus insidieux, ce besoin immodéré de fabriquer des objets frivoles et dont on ne sait plus se passer. Il est clair que tu redoutes que l'homme se retrouve à nouveau coupé de sa profondeur, avec cette sorte de cécité sans empathie. L'analyse de David Rousset me revient en mémoire.
Déporté comme toi à Buchenwald, il publie en 1945 « L'univers concentrationnaire » où il écrit
« L'existence des camps est un avertissement. Il serait facile de démontrer que les traits les plus caractéristiques de la mentalité SS se retrouvent dans bien d'autres secteurs de la société mondiale. Certes, sans commune mesure avec les développements connus dans le Grand Reich, mais ce n'est qu'une question de circonstances. Car l'existence et le mécanisme de cette crise tiennent aux fondements économiques et sociaux du capitalisme et de l'impérialisme. »
Depuis 1945, force est de constater que ces fondements économiques et sociaux du capitalisme mettent à mal la terre où nous vivons. Ce ne sont plus seulement les hommes qui en souffrent. La menace pèse sur tous les êtres vivants qui ne sont plus considérés que comme des biens de consommation. L'arbre, par exemple, dans le jargon des forestiers, est appelé « capital sur pied ». Une fois qu'elle a passé la porte de l'abattoir, la vache, quelle que soit sa couleur, sa singularité, est désignée par le boucher comme une marchandise. Est-ce qu'un jargon technique de la chosification du monde ne serait pas en train de s'inventer ?
Une nuit, je n'arrive pas à dormir. Ce qui m'empêche, c'est ce confort, devenu si entièrement condition de vie qu'il a quitté les régions extérieures où il avait l'habitude de commander, le pays des objets et des instruments, pour entrer dans mon personnage et s'y établir avec tous les droits d'un état d'âme.
Jacques Lucéran est parti avec sa troisième femme enseigner la littérature française en Amérique du Nord, dans une université de Virginie.
Cet équilibre, ce confort, sont des biens provisoires fondés sur une supposition dont la fragilité m'effraie, que l'univers est fait pour donner du bonheur aux hommes, que c'est sa destination même et qu'il suffit d'un signe distrait, automatique, pour déclencher tous ses dons. La voilà cette résistance que je sens monter en moi au milieu de cette nuit trop douce. J'ai peur d'oublier, moi aussi, et aussi vite que les autres. Oubliez que la terre est très riche, mais pour le bien de plusieurs espèces et non pas d'une seule, fût-elle humaine. C'est toute mon affaire cette nuit. Demander la vie où il y a réserve de vie, ne pas me tromper d'adresse. La demander au-dedans de moi, à cette place absolument intérieure, où il n'y a ni ciel, ni gazon, ni voiture, ni même puissance d'aucune sorte visible. Mais la vie.
Le jour du dépassement est calculé en divisant la capacité de régénérescence de la Terre par l'empreinte écologique de l'humanité sur l'année, le tout étant divisé ensuite par 365. Le mercredi de août 2023, donc, l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut générer en une année. Toutes les ressources de la Terre pour la seule jouissance des hommes. Tout de la mer, des montagnes, des ruisseaux, des prairies, tout des bêtes, des fleurs, des abeilles, tout des oiseaux et des rochers aussi. Tout. Tout. Pour la seule jouissance des hommes.
Et je me trouve à l'aise, mais je me trouve sans joie. La liberté politique, c'est bien. La liberté sociale, c'est bien. Mais il est une autre forme de liberté dont, par un concert général de silence, personne ne parle aujourd'hui, ni dans les États démocratiques, ni dans les autres. C'est la liberté intérieure. L'indépendance des hommes envers les biens matériels, l'océan des services et des produits qui résultent de son industrie.
Je ne suis pas surprise de découvrir qu'au dernier temps de sa vie, Jacques Lucéran aime à trotter sur le Blue Ridge Parkway, la route qui marqua la frontière entre les Indiens et ce monde prétendument civilisé. Cette route lui semble d'autant plus belle qu'elle est inutile. Elle n'existe que pour accompagner le déploiement d'une montagne sur une crête, vivre en sa compagnie, tenir le fil de sa beauté.
Ici, l'air et le silence ont la plénitude d'un chant. Il y a dans les villes désormais un maléfice qui vous brouille avec vous-même. Là où je suis, il n'y a plus que la vie, c'est-à-dire un grand vide, un trou, un appel. Il n'y a plus rien qui m'empêche de faire monter de moi ces richesses que je contiens, comme tous les hommes, sans le savoir.
Alors il part, dès qu'il le peut, arpenter la lisière entre deux façons d'être au monde. Celle qui consiste à se fondre dans le vivant qui l'entoure, celle qui imprime sa marque partout. Lui, à qui les êtres apparaissent par couleur, qui sait, rien qu'en touchant les murs d'une maison, si ses amis sont rentrés, voilà qu'il se découvre dans ces forêts sauvages des frères de présence.
La terre sans homme est très proche. La terre des Indiens coureurs, chasseurs, des Indiens qui jamais ne marquaient le sol de leurs traces. Ici, rien n'est fait pour m'arrêter. Il me suffit de prendre le pas que les nomades ont toujours tenu, de ne plus compter, de dépenser ce que j'ai de vie.
Les Indiens, comme tu les appelles, ont connu les massacres, les déplacements, l'accaparement de leurs biens.
Sur un territoire de 300 km de diamètre, là où se trouvait jadis, c'est-à-dire hier encore, la paisible réserve indienne des tribus Navarro, le plateau du Colorado est aujourd'hui pollué par les fumées d'une centrale thermique géante qui dévore le charbon qu'on arrache à même le sol tout autour d'elle. Plus loin, les immenses forêts intactes qui couvraient toute la partie sud-est de l'Alaska ont commencé d'être exploitées. On annonce qu'elles vont être mises en coupe systématique. Ce poumon qui faisait respirer le continent nord-américain vers son nord-ouest bientôt ne fonctionnera plus.
Instinctivement, tu te ranges du côté des silencieux, dans la vision horizontale des peuples premiers pour qui tout ce qui vit est sacré. C'est sur ces terres de pauvreté que la seule richesse valable selon toi peut advenir, l'expérience du contact.
L'autre jour, j'étais là-haut. Je touchais terre, mais si peu. Tout s'ouvrait autour de moi, le ciel et les vallées. Je m'appuyais de tout mon corps sur l'air. J'entendais le vent glisser le long des pentes et jouer. J'entendais les pas immobiles de deux monts dressés. J'éprouvais la verticalité de l'espace et ses inflexions au fil des forêts et des roches. Si j'attrape un son du Blue Ridge, un courant du Blue Ridge, je connais aussitôt cette montagne tout entière. Et je la connais de toutes les façons à la fois, et je la vois aussi. Je n'ai pas à justifier le fait, car ce n'est pas moi qui ai filé le tissu du monde. Ce tissu qui ne comporte pas de trous.
Un nouveau mot a surgi. Solastalgie. Il décrit la détresse que l'on ressent devant l'état de la terre. Le deuil. Cette sensation d'impuissance devant ce qui disparaît ou a déjà disparu. La solastalgie est une émotion mais aussi une douleur physique. Elle révèle implicitement cette terre présente en nous et dont l'ablation d'une partie, fût-elle advenue à l'autre bout du monde, réveille la sensation du membre fantôme. À cette détresse qui est aussi la mienne, tu réponds par une injonction. L'invitation à plonger plus profondément encore dans la sensation. Par-delà les fascinations du désastre, s'ouvrir pour ressentir, se laisser rencontrer.
Tous les sens, je le crois, se réunissent en un seul. Ils sont les accidents successifs d'une perception unique. Et cette perception est toujours celle d'un contact. C'est pourquoi l'ouïe peut remplacer la vue, le toucher. C'est pourquoi aucune perte n'est irrémédiable. J'en viens à me demander si ce que nous appelons « attention » n'est pas la forme psychologique, à la fois affective et intellectuelle de ce contact fondamental. Si l'attention n'est pas une forme de toucher.
Ton attention répare la trame effilochée du monde.
Toucher ainsi, toucher comme il le faut, les tomates du jardin, le mur de la maison, l'étoffe des rideaux ou cette motte de terre, c'est les voir, bien sûr, et presque aussi exactement et complètement que les yeux permettraient de le faire. Mais c'est aussi bien plus que les voir. C'est se brancher sur eux. C'est, au sens électrique du mot, laisser le courant qu'ils contiennent s'accrocher au courant dont nous sommes chargés, ou inversement. C'est cesser de vivre devant les choses pour commencer de vivre avec elles. Et tant pis si le mot paraît choquant, c'est aimer.
J'arrive au bout du voyage. Je t'ai suivi à Juvardeuil, Paris, Fresnes, Buchenwald, la Virginie. Tu as écouté avec moi les nouvelles de la guerre d'Ukraine. Suivi avec attention le procès de ce berger arrêté pour avoir aidé les migrants. Peut-être même sais-tu percevoir ce bruit de fond de l'extinction dont parlent les scientifiques. Je suis ce matin en train d'écrire quand je te sens à côté de ma chaise. Comme souvent, j'ai couru d'abord au bureau à peine sorti du lit. À 7h, je n'ai pas allumé la radio. J'ignore que la guerre est entrée, d'un coup, en Israël, par la violence extrême et la sidération. Je sens seulement que tu es là, et cette présence m'intrigue. J'y repenserai par la suite, car tu es présent cette fois sans que je t'aie appelé. Une part de moi aura du mal à y croire, que tu sois venu te tenir simplement entre ma chaise et l'horreur du monde, ce matin du 7 octobre 2023, avec ce grand corps un peu maigre, ce visage appliqué. Je marche vers la cuisine me préparer un café. Et c'est alors que j'apprends ce qui s'est passé, à la frontière israélienne. Un instant, je me sens chavirée. Une fois encore, voilà que le désastre s'est trouvé un nouveau visage, qu'il exhibe avec une impunité qui fascine. Voudrait balayer mes espoirs et mes conjurations. Mais tu es là. Et pour la première fois, je sais que tu ne diras pas un seul mot. Cela me semble tellement juste que quelque chose se tait en moi. Les murs de la cuisine me paraissent soudain trop étroits. Je prends une veste. On sort marcher. Il y a l'été qui s'incruste. Les platanes séchés sur pied. Le reflet du soleil sur l'eau de la Saône. Le cygne gris. La patte qu'il tient sortie, comme une rame à son flanc. Les bruits de la ville sont cette écume un peu sale que les vaguelettes ont poussée vers la berge. C'est un drôle de silence qui n'empêche rien du dehors. Ouvre de l'espace dedans. Un peu comme à s'enfoncer lentement sous une mer déchaînée. Descendre, descendre encore, jusqu'à cet endroit bien au-dessous de la houle, des rouleaux et des lames hautes, où tout est calme, où tout se tait, où la tempête n'entre pas. Au lendemain du 7 octobre, le monde n'en finit pas de crier. Au moment où j'écris ces lignes, il y a ce peuple démantibulé, écrasé sous les bombes, sans refuge, sans ressources, le désastre de Gaza. Le monde est partout le même, disait le vieux forgeron dans le camp de Buchenwald. Et plus il est question de mort, plus il devient urgent de parler de la vie.
Dans un monde qui secoue contre mes oreilles, tous ces règlements et toutes ces ferrailles. Dans le monde qui chaque jour m'apporte de plus grandes connaissances, des légumes plus grands, des armées plus grandes, j'ai besoin de nourriture. J'ai faim. J'ai faim d'une chose qui ne diminuerait pas et ne grandirait pas. D'une chose qui, simplement, n'aurait pas de fin. Cette chose-là, faute de mots, je l'appelle la vie intérieure. La vie intérieure ne consiste pas dans les mouvements de mon âme par opposition à ceux de mon corps, ni de la raison par rapport à mes instincts. Âme, instinct, corps, raison, tout cela vieillit, s'abîme. Tout cela se trompe ou peut se tromper. Je n'y crois pas. Il me faut du solide, du constant. Et dès que je regarde avec attention, ce constant, je le rencontre partout. Dans mon corps aussi bien que dans mon âme, dans toutes les âmes et tous les corps avec une égalité que je ne soupçonnais pas. La vie intérieure, c'est cela. C'est savoir que la paix n'est pas dans le monde, mais dans le regard de paix que nous portons sur le monde. C'est savoir que la joie n'est pas dans le monde comme des dragées dans une bonbonnière, et qu'il suffit d'attendre qu'une société enfin parfaite ou des appareils enfin complets remplissent la bonbonnière. C'est savoir que la joie n'est jamais pour demain, mais pour aujourd'hui, ou alors elle ne sera pas. La vie intérieure, c'est être convaincu que voir consiste dans l'acte de regarder, savoir dans l'acte de comprendre, et tenir dans l'acte de s'abandonner. Soit, je suis content, mais ce n'est pas de ce que je suis, ni de ce que je possède en cet instant. C'est de savoir que tout peut recommencer si je laisse faire la vie. Je voudrais me faire très souple, très petit. Je n'y parviens pas toujours. Je voudrais ne pas sortir de ma place. Je voudrais apprendre à n'en plus sortir. Or, je sais que ma place d'homme est dans la joie. Oh, s'éveiller chaque matin, et pourquoi pas chaque minute, et regarder le monde qui commence.
J'ai tout appris de la nuit.
Dans les yeux de Jacques Lucéran.
Un feuilleton en 5 épisodes de Anne Cibran. Avec
Audrey Bonnet,
Sylvain Levitte,
Sarah Lepicard.
Bruitage, Sophie Bissens. Musique originale, Anthony Capelli. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Pierre-Henri, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Laure Egoroff. Claire Lucéran a mis à disposition d'Anne Cibran pour l'écriture de ce feuilleton un large corpus de textes de Jacques Lucéran. Référence complète à retrouver sur notre site franceculture.fr.